On enchaîne avec Julien Dubreuil.
Merci. Merci également donc, pour l'invitation à vous parler aujourd'hui donc, de l'expérience qu'on a depuis quelques années au niveau isérois, au centre référent de réhabilitation psychosociale et de remédiation cognitive du case management. Et notamment, donc, ce dont je vais vous parler aujourd'hui, c'est le case management au service du parcours de santé, du diagnostic à la réinsertion. Donc finalement, en premier, en fait, je vais vous présenter un peu notre organisation à nous en Isère. Et pour insister aussi et illustrer sur la nécessité d'une coordination. Avant de faire un focus sur le case management, qu'est-ce que c'est exactement, les différents modèles, le profil des case managers, leurs compétences. Avant d'enchaîner par une illustration clinique, alors j'espère que vous aurez aussi pas trop faim et que vous serez encore concentré à ce moment-là, mais peut-être que ça pourra aussi vous réveiller un peu, autour du parcours d'Amandine, donc qui est une personne qui souffre d'un trouble du spectre autistique sans déficience intellectuelle, et d'illustrer aussi donc particulièrement sur le cas particulier du case management dans le syndrome d'Asperger, avec la nécessité de ce parcours intégratif du diagnostic à la réinsertion, puisque c'est un nouveau public qu'on a l'occasion d'accueillir depuis 2013 et l'ouverture d'un centre expert Asperger adulte, et qui a nécessité un certain nombre aussi d'évolutions au niveau des pratiques, que ce soit au niveau de la réhabilitation au niveau sanitaire qu'au niveau communautaire. Donc la réhabilitation psychosociale, alors moi j'ai repris la définition donc, d'Anthony et Farkas, donc je ne vais pas la répéter puisqu'on l'a déjà dit plusieurs fois, mais en fait le parcours de réhabilitation psychosociale c'est un dispositif de soins intégrés avec des techniques de pointe qui ciblent le fonctionnement de la personne, mais aussi et surtout une révolution au niveau du paradigme avec un passage du malade à l'usager et la notion donc, de rétablissement dans l'environnement. Et donc là-dedans finalement le case management dans l'évaluation et la coordination du parcours d'insertion va jouer un rôle un peu crucial, le case manager étant le chef d'orchestre finalement de toutes ces interventions pour qu'elles surviennent, que ce soit la bonne intervention au bon moment en quelque sorte. Donc en Isère, la réhabilitation psychosociale elle remonte à 2001 et elle s'est construite, c'est la particularité au niveau isérois, autour donc à la fois d'un versant sanitaire et d'un versant communautaire qui se sont développés finalement en parallèle et qui se sont enrichis l'un l'autre. Sur le versant sanitaire, donc d'abord c'était l'unité de réhabilitation à temps complet, puis qui est devenu hôpital de jour en 2009, centre référent en 2013, qui s'est étoffé donc de deux centres experts sur la schizophrénie en 2010 et l'Asperger adulte en 2013, affilié au réseau national fondamental. Et sur le versant communautaire, donc le réseau handicap psychique, qui était auparavant donc centré sur l'Isère et qui depuis 2013 est devenu un groupement de coopération sociale et médico-sociale à vocation plus large sur les départements de l'Isère, de la Drôme, de la Savoie et de la Haute-Savoie. Donc le centre référent de réhabilitation psychosociale, le versant sanitaire, du coup il était à destination, alors au départ c'était très centré donc, autour des personnes qui souffraient de schizophrénie, puis sont apparues donc, d'autres pathologies, alors actuellement c'est troubles bipolaires, troubles du spectre autistique sans déficience intellectuelle, troubles émergents, troubles graves de personnalité, troubles addictifs qui sont aussi en cours en partenariat avec l'addictologie. Donc tout l'objectif, c'est de proposer un accompagnement individualisé de la personne en situation de handicap psychique dans la réalisation finalement de son projet de vie, puisque les personnes qui viennent nous voir, elles viennent nous voir en fait parce qu'elles souhaitent un travail, elles souhaitent des amis, elles souhaitent un logement, et que c'est ce qu'on doit donc travailler avec elles. Donc une évaluation donc fonctionnelle, ça a été dit dans les présentations précédentes, avec plusieurs outils, la psychoéducation, la remédiation, l'entraînement aux habiletés sociales, le travail sur l'estime de soi, la gestion du stress, le soutien à l'emploi. Donc, il y a tout un ensemble de choses qui sont particulièrement intéressantes, notamment donc, aussi sur le soutien à l'emploi, aussi bien dans les pathologies comme la schizophrénie que dans les troubles du spectre autistique. Donc, les centres experts schizophrénie et Asperger adulte donc, ils sont affiliés au réseau national des centres experts, donc, porté par la Fondation Fondamentale. Donc, ça permet de réaliser du coup, un bilan diagnostique et ou fonctionnel, complet de la pathologie, et d'orienter donc vers les soins de réhabilitation si besoin, ou vers l'insertion communautaire si besoin également. Donc l'adressage est aussi intersectoriel sur le territoire du centre référent, et fait par les secteurs psychiatriques, les libéraux, le REPSI et le C3R. Le versant communautaire, donc le réseau REPSI, donc c'est un groupement de coopération sociale et médico-sociale, donc c'est en fait un réseau d'acteurs du médico-social, du social, du sanitaire, qui agissent ensemble en fait autour de situations complexes dans l'objectif de décloisonner et de construire des parcours d'insertion sociale et professionnelle. Donc vraiment, l'objectif, c'est une meilleure coordination du parcours de santé pour faciliter le rétablissement, avec une équipe, un référentiel d'évaluation partagé et une équipe spécialisée d'évaluation du handicap psychique qui va se réunir régulièrement, où le psychiatre et le coordinateur, le case manager du réseau REPSY vont présenter certaines situations des usagers et où vont être présents en fait des référents des AAD, des référents de, par exemple de Cap Emploi pour l'accompagnement vers l'emploi en milieu ordinaire, de SAVS, SAMSA, de foyers d'hébergement, de foyers de réadaptation, et où tout le monde va réfléchir ensemble avec un référentiel d'évaluation partagé pour en fait porter une évaluation commune de la personne, avec des possibilités de mise en situation, des stages portés par le REPSY en milieu professionnel par exemple, ou des stages dans des foyers pour évaluer l'autonomie, également du coup orientés vers des bilans diagnostiques ou fonctionnels, par exemple au centre expert si besoin, vers des soins de réhabilitation au centre référent, pour que l'évaluation soit portée en commun et que la coordination du parcours soit plus fluide. Donc des interventions qui sont plurielles auprès des personnes, des professionnels, des familles et des proches, avec l'éducation thérapeutique également dans ce domaine-là, avec le programme Pro Famille, et un conventionnement donc, qui est réalisé donc, avec les MDPH sur les différents territoires. Donc l'articulation en fait, entre centre référent, centre expert, REPSY, en fait, elle a été facilitée par une unité de lieu, donc au centre-ville de Grenoble, par des personnels et un projet commun. Alors, autour du niveau des personnels communs, j'en suis un peu l'illustration, puisque je travaille au centre référent de réhabilitation, au réseau REPSY, ainsi qu'aux deux centres experts. Donc, l'acteur clé, finalement, de toutes ces articulations, puisque ça pourrait faire beaucoup de professionnels, beaucoup d'acteurs avec des difficultés du coup à coordonner tout ça, c'est le gestionnaire de cas ou case manager ou coordinateur de parcours qui sont des termes un peu similaires. Donc comme ça a été également dit dans les présentations précédentes, en fait c'est un temps circonscrit d'intervention où ni le REPSY ni le centre référent de réhabilitation psychosociale ne se substituent aux intervenants en place, mais vont plutôt agir en complément, en coordination avec eux, la personne et puis tous les acteurs autour sanitaires et médico-sociaux qui interviennent dans la prise en charge. Ce schéma, un peu pour vous montrer l'articulation en fait, entre les différents dispositifs, entre les secteurs, les médecins les libéraux, le REPSY, les centres experts schizophrénie Asperger, le centre référent de réhabilitation psychosociale. Donc le case management, finalement, qu'est-ce que c'est ? Une diapositive un peu chargée, mais une définition qui est assez riche, donc, qui a été faite par Petit Que Glaser. Donc, c'est le processus par lequel on obtient, coordonne et assure l'utilisation par les usagers souffrant d'incapacité psychiatrique des soins et des services qui les aideront à satisfaire d'une façon à la fois efficace et efficiente leurs besoins multiples et complexes. Le but ultime, c'est de favoriser la continuité des soins et de permettre que les différents professionnels et partenaires du système de santé soient accessibles en renforçant leurs responsabilités partagées et leurs actions. La facilitation de l'accès aux soins et aux services, l'amélioration de la circulation entre les opérateurs, assure une continuité préventive qui limite les décompensations fortuites, améliore l'observance, diminue le nombre et la fréquence des réhospitalisations et réduit la durée moyenne de séjour. Le case management favorise la réadaptation et augmente la qualité de vie de l'usager et de la famille. On voit bien que cette modalité particulière de soins est bien intégrée dans la démarche de réhabilitation psychosociale. Donc il y a différents types de case management qui existent. Donc le case management de courtage, qui est en fait vraiment de mise en lien de la personne avec la satisfaction finalement des besoins fondamentaux. Le case management clinique. Le case management en période critique, donc qui comporte plusieurs types d'interventions, donc le suivi intensif dans le milieu, le case management de transition, notamment. Le case management fondé sur le concept des forces personnelles et le case management de réadaptation. Donc je vais plutôt m'attacher sur trois d'entre eux, le case management clinique, le case management en période critique et plus largement sur le case management en réhabilitation, puisque c'est aussi celui que je connais le mieux, forcément. Le case management clinique, en fait, c'est le modèle qui est classiquement utilisé en France. En fait, c'est le système de l'infirmier référent. Donc, c'est une forme mixte de case management qui cumule à la fois des fonctions donc, de liaison, de coordination, comme le case management de courtage, et des actions cliniques auprès de l'usager, avec du coup un processus en plusieurs phases, avec une phase d'engagement dans les soins, d'évaluation, de planification, des interventions qui normalement donc, se font aussi en lien avec les ressources de la communauté,
l'entretien avec la famille, avec les autres soignants, le maintien et le développement du réseau social, défense des droits de l'usager, des interventions qui peuvent se faire aussi auprès de l'usager, avec à la fois des entretiens infirmiers, des actions sur le quotidien, participation et l'animation à des actions de psychoéducation en groupe ou individuel, et l'intervention sur l'usager dans son environnement avec la gestion des temps de crise, le suivi, voire l'intervention au domicile. Alors, c'est un modèle qui, effectivement, a montré une certaine efficacité, mais qui a aussi des limites. Alors, la limite, en fait, c'est que l'efficacité, elle est principalement liée dans les faits aux actions cliniques qui sont réalisées et peu aux actions, du coup, de courtage. Ce case management-là étant souvent peu en lien avec le reste de la communauté. Le système est aussi décrit parfois comme peu flexible, peu intégré dans l'environnement naturel des usagers. Le case management en période critique, donc comme le nom l'indique, il est fait sur une période critique, comme par exemple la sortie d'hospitalisation, la prise en charge des personnes sans domicile fixe, les sorties de prison. Il facilite du coup la continuité des soins, l'intégration communautaire. Et donc c'est vraiment un soutien très intensif pour des personnes les plus vulnérables. C'est un case management qui est focalisé, qui a une intensité décroissante dans le temps, qui est réalisé dans la communauté, avec une charge par case manager qui est très réduite puisque c'est 1 pour 10, donc ça nécessite quand même des moyens qui sont très importants. Une approche par phase, pas de fin de traitement précoce, une supervision d'équipe régulière et une révision des files actives régulières également. Donc une diapo pour illustrer un peu ce case management en période critique avec donc plusieurs phases. La phase au départ donc, d'établissement d'une relation de confiance, la phase de transition avec le soutien et le début de lien avec le soutien à long terme, une phase d'expérimentation et une phase de transmission. Donc j'insisterai pas plus sur celui-ci, mais du coup c'est un case management qui a montré aussi son efficacité dans ces périodes de transition. Où du coup ça a facilité, ça a prévenu les rechutes, facilité la mise en place de soins et la continuité des soins. Le case management de réhabilitation. Donc, c'est un modèle qui est basé donc, sur les désirs et buts de la personne, plutôt que sur les objectifs fixés par les systèmes de soins. Et ça c'est aussi donc, tout l'essence de la démarche à la fois de réhabilitation psychosociale et d'éducation thérapeutique, avec une participation active de l'usager à tous les niveaux de l'intervention, et une démarche donc, qui est faite en plusieurs temps. Une évaluation fonctionnelle de la personne, de ses ressources, de ses objectifs, et un soutien donc, dans l'acquisition et le maintien des habiletés pour obtenir les ressources couvrant ses besoins. Donc, une diapo un peu synthétique pour illustrer les services qui sont assurés par le case manager dans les différents types de case management. Dans le case management de courtage, l'objectif, c'est la satisfaction des besoins fondamentaux de la vie quotidienne. Donc ça va être s'assurer que la personne ait accès à des revenus, à un hébergement, à la nourriture, des soins médicaux, la protection de ses droits civiques. Le case management clinique et le case management du coup, en période critique sont plutôt dans la deuxième colonne, la partie traitement. Le case management de réhabilitation va recouvrir un peu les deux dernières colonnes. Donc nous, au centre référent de réhabilitation psychosociale et de remédiation cognitive de Grenoble, donc le case management, c'est donc actif depuis environ 2010. Donc c'est devant la nécessité d'un parcours qui soit intégratif, le case manager ou coordinateur de parcours, parce qu'on n'aime pas trop l'histoire gestionnaire de cas, c'était quand même pas une dénomination très jolie, donc est vraiment le chef d'orchestre en fait, du parcours de la personne. Donc ses missions, ça va être de garantir un suivi personnalisé, au plus près des besoins de la personne, et garantir une évolution du parcours de réhabilitation qui suit l'évolution dynamique du processus de rétablissement. C'est vrai que c'est très facile en fait, de se retrouver à proposer un peu un welcome pack du patient qui arrive en réhabilitation avec éducation thérapeutique, remédiation cognitive et entraînement aux habiletés sociales dans un ordre qui peut changer. Et c'est vrai que nous, on s'est aperçu que quand on se retrouvait finalement en échec sur certaines situations, c'est qu'on s'était à un moment éloigné de ce que souhaitait vraiment la personne qui s'adressait à nous et qui s'adressait pour un objectif donc de travail, d'insertion sociale. Et donc c'est tout l'objectif du case manager, ça va être de s'assurer que la bonne intervention puisse être réalisée au bon moment. Donc le case manager, en fait, au centre référent de réhabilitation, donc ça peut être un infirmier, ça peut être un ergothérapeute, dont la place est effectivement cruciale en réhabilitation, ça peut être une psychomotricienne, un éducateur technique. Au réseau Repsy, ça peut être du coup psychologue, neuropsychologue, ça peut être ergothérapeute. Donc c'est un peu tout le monde finalement, avec par contre la nécessité au moment où on est case manager de se décentrer de sa fonction initiale, d'avoir un temps identifié de coordination, des outils, une nécessité de pouvoir aussi travailler en réseau. Et donc je citais en fait Rosen qui disait déjà en 2001 à propos du case manager, ce n'est pas son rôle de tout faire, mais de faire en sorte que tout soit fait. Vaste programme. Donc pour tout ça, il faut un certain nombre d'habiletés, de compétences des case managers, donc qui ont été finalement assez bien décrites par nos collègues canadiens et américains, avec des habiletés qui sont à la fois cognitives, donc les connaissances concernant la pathologie, le stress, les différentes approches thérapeutiques, ça va être les aspects plutôt savoir, des habiletés qui vont être affectives, avec des questions de posture finalement, d'intégration de la philosophie de la réhabilitation et du rétablissement dans sa pratique, et ça, ça va vraiment être crucial et déterminant, ça va être le savoir-être, et des habiletés donc plutôt psychomotrices et savoir-faire, l'application concrète du savoir dans sa pratique, et en fait, concrètement, donc, plus que les savoir-faire, ça va être les savoir-être et les savoirs qui vont vraiment déterminer l'intégration de ces techniques dans la pratique et l'orientation des soins vers le rétablissement. Donc des habiletés cognitives, donc des connaissances théoriques, sur la psychopharmacologie, sur la relation d'aide, l'évaluation de l'état mental, mais aussi les modèles de réhabilitation psychiatrique, des connaissances pratiques, donc le fonctionnement du système de services et de soins, et des informations sur les ressources communautaires, parce qu'on ne peut bien orienter une personne que si on connaît effectivement les endroits où on peut l'orienter. Des habiletés affectives qui vont vraiment là être déterminantes, donc des capacités d'empathie, une attitude d'espoir et d'optimisme, parce que si nous on n'y croit pas, les personnes ne vont pas y croire non plus. Et ça va avoir des actions qui vont aussi être extrêmement délétères sur la motivation des personnes. Une flexibilité, une créativité, l'habileté dans la résolution de problèmes et d'être orienté donc vers la croissance personnelle et le rétablissement. Donc de laisser aussi à l'usager prendre cette place déterminante d'acteur dans son processus de rétablissement. Des habiletés donc psychomotrices, des compétences, donc évaluer l'état mental, les capacités thérapeutiques avec les différentes formations possibles, les compétences aussi nécessaires à l'établissement de l'alliance thérapeutique qui va être cruciale, donc l'écoute empathique, l'entretien motivationnel, et tout, plus largement toutes les compétences qui facilitent une relation positive basée sur la confiance, et des compétences à travailler en réseau, donc à communiquer entre professionnels, ce qui n'est pas forcément simple, à se coordonner, à collaborer, et donc l'alliance thérapeutique qui, comme ça a déjà été dit précédemment, est essentielle dans la démarche de réhabilitation. Les outils du case manager au centre référent de réhabilitation, en fait, ils vont être de deux types. Donc le bilan éducatif partagé, donc diagnostic éducatif, donc la première étape de la démarche d'éducation thérapeutique, qui va s'appeler en fait au centre référent de réhabilitation le plan de suivi individualisé, qui va être réalisé à partir d'un entretien semi-structuré basé sur la CASI, qui est une échelle québécoise, américaine au départ, traduite par les Québécois, mais qui a été largement remaniée. Donc l'intérêt du bilan éducatif partagé en fait dans le case management, c'est que ça permet en fait d'évaluer les représentations que la personne a d'elle-même, de sa pathologie, des difficultés qui sont liées à sa pathologie, des ressources qu'elle a déjà pu mobiliser pour y faire face. Ça permet de construire avec la personne accompagnée un parcours de réhabilitation qui soit personnalisé, orienté vers le rétablissement et qui s'adapte aux objectifs de la personne, dans le choix des interventions, dans le choix du moment des interventions et de l'ordre de priorité des interventions. Et c'est vrai que nous, on voit à la fin des évaluations fonctionnelles qui peuvent être réalisées au centre référent, souvent les interventions auxquelles on aurait en premier pensé pour la personne sont finalement pas celles qu'elle, elle souhaite en priorité, et ça va nous amener du coup à une négociation en quelque sorte avec la personne et son entourage, soignant, familial, les différents référents autour sur quelle intervention va pouvoir être réalisée à quel moment. Donc ça facilite aussi la reprise du pouvoir d'agir et la motivation de la personne à s'engager dans le parcours de réhabilitation. L'intérêt aussi, c'est que ce n'est pas une démarche qui est figée, finalement, l'évaluation dans le bilan éducatif partagé. Il faut que ce soit révisé régulièrement en fonction de l'évolution de la personne dans le processus de rétablissement et dans son parcours. Et donc ce plan de suivi individualisé, il va être révisé. Globalement, c'est très dépendant de la personne accompagnée, mais ça va être au minimum révisé tous les 3 mois. et ça va permettre d'évaluer l'atteinte ou pas des objectifs initiaux, d'identifier des nouveaux objectifs et d'adapter finalement en permanence le parcours de réhabilitation aux souhaits de la personne. Après, il y a aussi une importance d'établir en fait des outils pour une coordination, un dossier de coordination avec les noms de toutes les personnes qui sont référentes, qui gravitent autour de la personne, les coordonnées, tout ce qui a pu être déjà été fait, tout ce qui est également encore à faire, l'emploi du temps de la personne aussi, parce que si on lui demande d'être, si elle veut être présente à tel groupe à tel moment, mais qu'elle a un rendez-vous 5 minutes avant à l'autre bout de la ville, ça va être un peu difficile. Donc le case manager en fait va avoir aussi besoin de toutes ces informations qui vont être présentes dans un dossier de gestion courante, donc qui va être accessible pour chaque coordinateur. Au centre référent de réhabilitation, on a globalement pour un coordinateur de parcours, on a environ 20 dossiers. Donc l'illustration finalement, donc c'est le parcours d'Amandine. Donc Amandine, c'est une jeune femme de 24 ans en 2013, donc 26 ans maintenant, qui en fait s'est présentée en août 2013 au réseau Repsy. Il n'y avait pas encore de diagnostic qui était posé, même s'il y avait une suspicion par son médecin généraliste. Mais du coup, elle, ce qu'elle souhaitait, c'est être accompagnée dans ses démarches de réinsertion professionnelle par le Repsy. Donc elle n'avait pas de suivi psychiatrique. Il y avait eu un suivi psychiatrique en fait il y a 4 ans à Lyon. Le diagnostic qui avait été porté à ce moment-là, c'était dépression et troubles du comportement alimentaire. Un antécédent de tentative de suicide par intoxication médicamenteuse volontaire à cette période. Le dernier suivi psychiatrique, c'était deux ans avant, donc c'était en 2011, au centre de santé universitaire à Grenoble. Il n'y avait pas d'antécédent d'hospitalisation. Des antécédents familiaux, donc un trouble bipolaire qui aurait été diagnostiqué chez sa mère. Un suivi qui était fait par son généraliste qui suspectait un TSA. Et un traitement donc, par hydroxyzine à la dose 25 mg par jour. Donc, c'est une jeune femme qui était originaire de Lyon, seconde d'une fratrie de 2 enfants. Un divorce parental à l'âge de 4 ans, plus de contact avec son père depuis 7 ans. Des bonnes relations avec sa mère, des relations conflictuelles avec son frère aîné. Elle est en couple depuis 4 ans et elle vivait avec son conjoint donc, depuis 2 ans, au moment où elle s'est présentée au réseau Repsy. Donc, l'intégration sociale en fait, a été difficile dès l'école primaire avec un isolement social progressif. Une personne qui a souffert de harcèlement scolaire à partir du collège, des difficultés à interagir avec les professeurs et dans la gestion des émotions. Donc, notamment, elle a eu un renvoi d'un collège après agression d'une autre élève, qui a été un élément extrêmement dur dans son parcours. Il y a eu une interruption scolaire également donc, pendant un an, à la suite des difficultés qui sont survenues dans le deuxième collège, une fugue du domicile parental avec une période où elle a été finalement SDF. Puis finalement, elle a réussi donc à se réinsérer, à obtenir un bac L, à s'inscrire en faculté art et spectacle, mais avec du coup une situation d'échec, des difficultés notamment à s'adapter au changement d'emploi du temps, qui était quelque chose d'extrêmement difficile pour elle. Donc elle a eu également donc plusieurs expériences professionnelles, donc dans la restauration rapide, mais là elle a souffert donc des problèmes de renvoi parce qu'elle disait qu'elle supportait pas l'injustice et que du coup tout ce qui était dans le management au niveau de la restauration rapide, il y avait un certain nombre de choses qu'elle dénonçait, donc forcément avec les managers ça allait pas, et en plus elle aimait pas trop les clients pas aimables, donc c'était aussi compliqué. Elle a eu aussi une expérience donc dans l'animation pendant 3 ans qui là pour le coup était une expérience qui était plutôt positive, mais qui malheureusement, en lien avec le départ de son manager, n'a pas pu se poursuivre. Elle s'était ensuite inscrite à l'école des Beaux-Arts de Grenoble, mais elle a échoué donc en deuxième année parce qu'il y a eu un changement de référent. Là encore, c'est tout le changement qui a été difficile pour elle, des difficultés aussi à comprendre les consignes et à s'intégrer socialement. Donc une jeune femme qui était autonome dans la gestion de son budget, en difficulté pour beaucoup d'autres choses, notamment le ménage, les courses, la cuisine, les démarches, passer des coups de téléphone. Donc elle avait une procrastination, une remise donc au lendemain importante et des difficultés à modifier ses routines. Elle n'avait pas le permis B. Les transports en commun, c'était difficile à utiliser. Donc elle a une hypersensibilité au bruit, aux odeurs, au contact physique. Et donc elle était très fortement étayée par son conjoint pour beaucoup d'activités de vie quotidienne. Donc ses loisirs, en fait, étaient donc des centres d'intérêt pour certaines séries, Doctor Who, qui étaient regardées en boucle, des documentaires sur cette série, la culture japonaise. Et auparavant, donc, il y avait eu beaucoup d'autres choses, dinosaures, astronomie, lecture en général. Et au moment où elle s'est présentée au Repsy, il y avait quand même une perte d'intérêt pour ces centres d'intérêt spécifiques, donc, qui était aussi largement évocateur d'une dépression. Un isolement social qui était majeur, puisqu'à l'exception de son conjoint, en fait, elle voyait finalement vraiment très peu de monde. Donc l'évaluation clinique qui a été réalisée au Repsy, donc On a vu qu'il y avait des difficultés donc, à initier ou maintenir une conversation, à maintenir son attention dans une conversation. Donc, elle disait, surtout quand ça ne l'intéresse pas d'ailleurs, elle disait, quand je parle avec les gens, souvent je ne suis pas là, ça m'intéresse rarement. Des difficultés donc, avec le bavardage social, ces conversations de type machine à café. Avec, elle disait, je vous cite, hein, « Cela permet aux gens de se rapprocher, c'est comme les cris de meute. Vous savez, les animaux qui se reniflent entre eux. » Définition quand même pas très avantageuse. Des difficultés à décoder les situations sociales, à repérer les émotions d'autrui, à lui attribuer des intentions. Donc elle disait, je fais des études sur les expressions des gens pour pouvoir les différencier, mais c'est épuisant. Des difficultés à identifier ses propres émotions et à réagir en situation émotionnelle. Donc elle disait, c'est une vague d'émotions diverses. J'ai un catalogue d'émotions pour les contextes sociaux. J'essaie de trouver un moyen logique pour exprimer l'émotion attendue. Donc quelque chose qui était vraiment aussi épuisant, aussi à force. Une gestion des émotions difficile, avec parfois survenu de comportements auto-agressifs. Donc elle pouvait se frapper la poitrine ou se mettre un sac plastique sur la tête, et y compris parfois en public, ce qui entraînait quand même des grosses difficultés. Une humeur qui était fluctuante avec la présence d'idées suicidaires, avec comme scénario les scarifications ou l'intoxication médicamenteuse volontaire. Il n'y avait pas d'intention de passage à l'acte au moment de l'évaluation, mais il y avait quand même aussi beaucoup d'éléments plutôt dépressifs. Il y avait beaucoup de rumination, une projection dans l'avenir difficile, et une hypersensorialité aux odeurs, aux bruits, aux lumières vives, et une pensée en arborescence qui contribuait aussi aux difficultés de maintien d'attention et à la fatigabilité en situation sociale. Donc ce qu'elle voulait finalement, lors du premier entretien qui a été réalisé par les case managers au REPSI, donc elle voulait un bilan diagnostique, puisqu'il y avait une suspicion de troubles du spectre autistique, être plus à l'aise dans les interactions sociales, et elle voulait être accompagnée dans les démarches d'insertion professionnelle. Donc qu'est-ce qu'on a fait ? Donc au réseau, on est toute petite équipe, hein, donc on met en lien finalement la personne avec les différents intervenants. Donc il y a eu une évaluation clinique par le psychiatre du REPSI pour mise en place des soins psychiatriques, une orientation vers le centre expert Asperger adulte, une orientation vers le centre référent de réhabilitation psychosociale et une orientation vers le dispositif OE Résonance, qui est donc affilié au réseau Cap Emploi et qui est spécialisé dans la prise en charge des personnes qui souffrent de handicap psychique, après discussion par l'équipe spécialisée d'évaluation du handicap psychique du REPSI. Donc là, je vous montre en fait le plan de suivi individualisé d'Amandine, donc initial en 2013, qui a été réalisé donc, à son arrivée. Donc elle disait donc, prendre ses rendez-vous, donc elle pouvait par exemple le faire, mais le faire par téléphone, c'était assez compliqué. Ça pouvait d'ailleurs être un objectif. Ça a été un des premiers objectifs au niveau de la prise en charge en réhabilitation. Il y avait tout un ensemble de questionnements sur les affects dépressifs, sur les angoisses, sur du coup, le diagnostic et sur les manifestations du syndrome d'Asperger. Et donc vous voyez en fait dans le plan de suivi individualisé, donc, il y a un ensemble de domaines qui vont être balayés, donc la santé psychique, physique, les difficultés cognitives, aussi on le verra plus loin, tous les aspects sur le lieu de vie, les relations sociales, familiales, avec une colonne du coup sur la situation actuelle, avec à la fois les difficultés mais aussi les ressources, la colonne d'après qui est du coup la situation qui est espérée, les objectifs de la personne, et la dernière colonne qui reste en fait vierge jusqu'à ce qu'on se soit mis d'accord avec la personne sur les interventions qui vont être proposées en regard de ces difficultés. Par exemple, sur la question du diagnostic, donc il y a eu l'orientation vers le bilan au centre expert. Sur la question du coup des ruminations anxieuses et des difficultés à gérer ces émotions, il y a eu l'orientation vers un groupe de gestion du stress et vers une thérapie cognitivo-comportementale. Sur d'autres aspects, par exemple, on voit dans les transports, donc elle disait qu'il y avait un certain nombre de difficultés, notamment au niveau sensoriel, et il y avait aussi des difficultés donc, par rapport à l'orientation spatiale. Donc elle voulait, en fait, on lui a proposé, en lien avec ces difficultés-là, une prise en charge ergothérapeutique pour la planification des transports et l'organisation des trajets. Si on voit du coup un certain nombre de domaines, l'entretien de son logement, de ses effets personnels, elle se décrivait comme autonome, même si son conjoint pouvait décrire un certain nombre de difficultés, donc on ne lui a rien proposé en regard de cet objectif qui n'en était pas un pour elle. Sur la gestion de l'argent, elle était également autonome, sur les loisirs aussi, même s'ils étaient centrés sur les centres d'intérêt spécifiques. Sur les différents aspects, donc on voit sur l'emploi, donc, qu'elle souhaitait donc retrouver un emploi, d'où ce qui lui a été proposé, et au niveau des habiletés sociales, Donc il y avait un objectif, j'aimerais me faire des nouvelles connaissances, j'aimerais apprendre à gérer les relations sociales plus simplement. Donc on lui a proposé aussi de participer à des groupes d'entraînement aux habiletés sociales. Globalement, donc, une flèche qui résume un peu le parcours d'Amandine entre août 2013 et septembre 2015. Donc à gauche, vous avez tout ce qui s'est passé au niveau du réseau handicap psychique. Et ensuite, après les deux flèches bleues, ce qui s'est passé au centre référent de réhabilitation psychosociale. Donc elle est arrivée au RIPSI, donc il y a une mise en place de soins psychiatriques, une orientation vers un partenaire qui est centré sur l'emploi en milieu ordinaire, une orientation vers le centre référent avec une coordination sur, avec les personnes du centre référent qui utilisent le même outil, ce qui facilite aussi les choses. Une phase d'évaluation, un bilan qui a été réalisé au centre expert Asperger, des prises en charge, une thérapie cognitivo-comportementale en individuel, un groupe de psychoéducation sur les troubles du spectre autistique, une rencontre avec notre job coach spécialisé dans la prise en charge des personnes qui ont un trouble du spectre autistique, une prise en charge en ergothérapie, la participation de ses proches à un groupe famille, une participation à un groupe gestion du stress. Également, donc, elle avait repéré aussi en lisant les témoignages de nombreux usagers qui ont des troubles du spectre autistique, que par exemple Temple Grandin, que le gilet de pression pouvait permettre aussi de mieux gérer son stress en exerçant une pression qui permettait d'éviter les comportements auto-agressifs. Donc avec son case manager, elle a repéré en fait le site internet et elle s'est organisée pour se faire livrer du coup ce dispositif qui a largement contribué à réduire l'intensité des crises d'angoisse. Il y a eu une révision aussi de son plan de suivi individualisé. Il y a eu d'autres groupes qui lui ont été proposés, Estime de soi, Tom Remède, les entraînements aux habiletés sociales, qui finalement, en fait, au départ, se retrouvaient dans les premiers objectifs, mais il y a eu beaucoup de choses qui se sont mises en place puisque le plan de suivi individualisé a été révisé. Et là, plus récemment, donc une collaboration autour d'un programme en fait, qui s'appelle Autinote et qui serait en fait la création d'un programme de remédiation de la cognition sociale pour les personnes qui souffrent de troubles du spectre autistique, dont elle a eu l'idée, puisqu'elle a une formation d'étudiante en cinéma et qu'elle avait fait un parcours aussi à l'Actor Studio. Elle a trouvé une boîte de production et donc elle le fait en partenariat donc avec nous. Et elle a également aussi comme projet de se former à l'éducation thérapeutique pour exercer des fonctions un peu de père aidance dans les groupes de psychoéducation. Donc son plan de suivi individualisé maintenant, donc avec les résultats du coup des différentes interventions qui ont pu être réalisées. Donc si je prends par exemple les commentaires à la suite donc de la psychoéducation, cela a été complémentaire à l'annonce diagnostique, les échanges avec les professionnels et les autres participants ont été riches. Cela m'a aidé à comprendre la théorie de l'esprit, à gagner en connaissance et estime de soi. Cela m'a aidé à mieux me connaître de façon progressive, par exemple. On voit tout ce qui a pu être fait, les nouveaux objectifs qui peuvent survenir. Donc notamment de gérer l'aspect social quand elle sortait faire ses courses. Alors avant, elle ne sortait pas faire ses courses, elle se faisait livrer. Donc c'est sûr que ça ne se posait pas. Là maintenant, du coup, ça se posait. Également, du coup, sur l'aspect par rapport aux difficultés cognitives et aussi à la fatigabilité, où elle voulait donc trouver un équilibre en termes d'exposition sociale. Donc également donc le soutien en emploi avec ce qui a pu se passer et donc une rencontre qui a également été réalisée avec sa mère, son conjoint et sa famille. Donc l'évolution finalement, une meilleure connaissance de soi, une amélioration de l'identification et de la gestion des émotions, une participation qui est très importante en fait dans les programmes de psychoéducation et du coup elle a évolué finalement vers une position un peu de père aidant. Elle a animé des rencontres d'échange avec d'autres personnes qui avaient des troubles du spectre autistique, rencontrées dans le cadre du groupe, mais qui s'est ensuite plus largement ouvert. Elle a réalisé des vidéos sur les troubles du spectre autistique, but d'information du grand public et des professionnels. Et donc avec l'équipe du C3R et du Centre Expert Asperger, donc elle a, il y a ce projet-là qui est en cours et en recherche de financement, et qui, en fait, qui serait aussi un projet professionnalisant pour elle, de réalisation d'un programme de remédiation de la cognition sociale. Une amélioration de ses relations donc avec l'entourage familial, notamment le frère aîné qui n'acceptait pas trop le diagnostic. Réduction des ruminations, amélioration de l'humeur et une évolution donc de son projet professionnel avec le travail donc sur Autinote en partenariat avec une société de production. Donc le case management et le syndrome d'Asperger. Donc ça, je passe parce que Sandrine l'a fait infiniment mieux que ce que je pourrais faire. Tout ça pour dire que du coup, les troubles du spectre autistique sans déficience intellectuelle, donc autisme de haut niveau, syndrome d'Asperger, Ils évoluent globalement mieux à l'âge adulte que s'il y a une déficience intellectuelle associée, mais quand même, il reste un certain nombre de difficultés qui persistent à l'âge adulte et donc des besoins de réhabilitation qui sont largement présents, avec une autonomisation souvent difficile. Avec, on le voit dans l'étude de Cederlund en 2007, une possibilité qui était plus importante par rapport à la population avec déficience intellectuelle de loger en appartement autonome, mais une dépendance majeure à l'entourage familial. Alors dans cette étude-là, c'était 100% qui rapportait un étayage par leurs parents. Des difficultés donc, dans l'insertion professionnelle, à maintenir un emploi stable, avec un accès à l'université dans 40% des cas environ, un accès à l'emploi entre 10 et 50% des cas, des difficultés dans le recrutement, dans l'intégration dans l'entreprise, et des emplois qui sont souvent à temps partiel et qui ne correspondent pas forcément aux attentes ni aux compétences des personnes. Également, un accès plus limité à des ressources qui ne sont souvent pas adaptées si il n'y a pas de déficience intellectuelle associée. Donc, des études, notamment américaines, relevaient que plus 25% environ des personnes qui avaient un trouble du spectre autistique sans déficience n'avaient pas d'activité particulière pendant la journée, donc restaient au domicile de leurs parents, contre 8% en cas de déficience intellectuelle associée. Ce qui a entraîné du coup un net ralentissement des progrès dans le domaine de la communication verbale et non verbale après le départ du système scolaire, et une charge beaucoup plus importante pour l'entourage et un coût social qui était très important, avec un coût vie entière par individu ayant un trouble du spectre autistique sans déficience intellectuelle associée, de 0,92 à 1,4 million de dollars environ. En France, du coup, le diagnostic, ça a déjà été dit, donc souvent été trop tardif, les ressources diagnostiques sont saturées. L'offre en soins de réhabilitation psychosociale pour ce public est à ce jour assez limitée, alors qu'il y a un net besoin donc, de programmes d'éducation thérapeutique, d'habileté sociale, de remédiation cognitive, de soutien à l'emploi. La connaissance des troubles du spectre autistique reste limitée en fait, chez les acteurs sanitaires, médico-sociaux et sociaux sur comment accompagner et comment adapter son accompagnement, ses pratiques d'accompagnement à ce public. Et le secteur médico-social est souvent peu adapté, donc c'était globalement des personnes qui se retrouvaient et des familles qui se retrouvaient très en difficulté. Tout ça donc, également pour dire qu'il y avait une nécessité peut-être encore plus importante d'un parcours intégratif du diagnostic à la réinsertion. Et on le voit en fait finalement dans le parcours d'Amandine, au départ elle est arrivée donc au réseau, on a lancé un certain nombre d'interventions et le diagnostic est arrivé en fait à un certain moment, a permis un certain nombre d'interventions ensuite, mais on n'a pas attendu que le diagnostic soit posé pour pouvoir lancer un certain nombre de choses. Donc l'intérêt aussi de pouvoir proposer des interventions psychosociales après avoir réalisé un diagnostic, puisque évaluer c'est bien, mais agir aussi c'est mieux. L'importance du diagnostic, par contre, pour la mise en place de soins de réhabilitation psychosociale qui soient finalement conformes au profil des personnes et des démarches de réinsertion, pour pouvoir aussi accompagner, notamment donc, avec les job coachs dans le programme de soutien à l'emploi vers le retour à l'emploi, l'importance de la connaissance de la pathologie pour développer des interventions spécifiques, la nécessité d'une coordination importante entre les différentes interventions et donc finalement le rôle majeur du case manager dans les troubles du spectre autistique. Conclusion, bah du coup, le case manager, en fait, c'est un acteur crucial dans l'orientation des soins vers le rétablissement et dans la démarche de réhabilitation psychosociale, avec donc l'intérêt d'une approche coordonnée pour que chaque intervention soit faite au bon moment, en suivant les objectifs de la personne. Ce n'est pas quelque chose qui est spécifique à une profession, en fait. Mais, par contre, il faut un certain nombre de savoirs, de savoir-être, de savoir-faire, et un temps dédié pour le case management. La démarche éducative et l'éducation thérapeutique est très intéressante également pour orienter les soins vers le rétablissement et donc l'intérêt du case management dans l'accompagnement des personnes qui ont des TSA. Merci.
Merci beaucoup, Julien. Ça prouve aussi que la psychiatrie peut rester attractive aux jeunes pousses et on s'en félicite. Moi, j'avais deux questions juste avant. C'était pour... nous rappeler à une mise en perspective, l'année dernière, pour les journées sur le territoire, on avait fait émerger des groupes de travail. Il y en a un qu'on devra sans doute relancer, mais ça fera partie de nos débats dans le cadre après l'Assemblée générale, autour donc un groupe qui était plutôt porté par des directeurs de soins et quelques DRH, mais là sur une phase plutôt soins en quelque sorte, savoir quel type de compétences et quelle organisation des soins et quel management des soins on est susceptible de mettre en place sur le territoire, quelle que soit son organisation, sectorisée ou non, pour mettre en place effectivement des pratiques nouvelles. Et moi, j'avais postulé, donc, notamment en utilisant, et je l'en remercie encore, une partie de la présentation qui vient de vous être faite. J'avais postulé donc, la semaine dernière, lors des journées de la FHF sur le management des pôles, qu'on pouvait notamment répondre à la question du parcours de santé par le développement du case management. Bon, ça, c'est un parti pris qui peut être évidemment discuté. Ce qui suppose, puisque le case manager n'est pas forcément une personne identifiée dans un métier particulier, vous l'aurez compris, qu'on soit capable aussi de développer des apports de compétences et des savoirs auprès de personnes diversifiées, susceptibles de travailler à la fois à titre personnel, individuel, mais également en équipe. Bon, ça, c'est des sujets forcément qui font écho à nos débats actuels, et on y reviendra aussi dans le cadre de l'ADESM. Et puis, je pense que quand on voit comment on conçoit aujourd'hui les interrelations autour de la personne, il faudra qu'on revienne aussi sur le sujet des technologies, parce que je pense qu'autour du maintien à domicile, autour du milieu de vie ordinaire, il y a des technologies qui sont accessibles et que la psychiatrie sous-utilise, et c'est un euphémisme de le dire, alors que d'autres domaines de prise en charge des personnes, hein, puisqu'on voit bien qu'il y a aussi toute cette dimension de service à la personne, que d'autres environnements que nous utilisent depuis plus longtemps, bien mieux, voire ont développé, alors que nous, on n'a pas su le savoir le faire. On n'a pas su le faire, pardon. Alors, moi, j'avais, à partir de là, deux questions, puisque nous, on se pose prioritairement dans notre champ de responsabilité la question du développement de compétences en formation continue, sujet qu'on aborde plutôt sur les versants non médicaux, mais dont on voit bien qu'il faudrait tout de même que nos communautés médicales, et ça reste encore trop rare, s'y attellent plus directement. Mais juste poser une question incidemment à Nicolas Franck, c'est quid du développement de ces perspectives? Donc là, je reviens plutôt sur la réhabilitation, la remédiation cognitive, dans les études médicales initiales de nos psychiatres.
Bien, en ce qui concerne le second cycle au programme de l'internat, il y a un item handicap psychique avec, dans les thématiques remédiation cognitive, éducation thérapeutique, etc., etc., qui a été introduit l'année dernière. Donc tous les futurs médecins entendent parler de ça. Et ensuite, dans les journées de formation pour le troisième cycle pour les internes, en Rhône-Alpes-Auvergne en particulier, mais dans d'autres régions également, nous avons donc pour l'instant une demi-journée pour notre région sur la réhabilitation, l'éducation thérapeutique. François Petitjean fait le trajet jusqu'à Lyon, et l'objectif c'est de développer ça pour atteindre une journée complète pour sensibiliser tous les futurs psychiatres de manière plus détaillée. Il y a également des séminaires qui sont donnés, des conférences qui sont offertes. Donc il y a une offre de formation qui est importante, et puis on les incite évidemment à se former à des choses plus techniques, soit pour pratiquer, soit pour promouvoir la remédiation cognitive, l'éducation thérapeutique, l'entraînement des compétences sociales, etc. Donc ça, c'est pour les médecins. Et puis pour les infirmiers, l'accès aux différents DU est très largement ouvert. Et donc nous formons beaucoup d'infirmiers, d'ergothérapeutes et autres professionnels paramédicaux, en particulier à la remédiation cognitive. C'est la majorité. Donc c'est vraiment un transfert de compétences qui permet ensuite un travail à l'horizontale très, très intéressant.
Merci beaucoup. Je vais solliciter, avant qu'on prenne quelques minutes aussi d'échange, on en a tout juste le temps, mais on peut encore le prendre, c'était le docteur Saunier, puisqu'en fait, bon, d'une part en région, un dispositif de formation se met en place entre la réhabilitation et l'autisme, notamment pour les Asperger, et puis solliciter sa réaction sur la présentation que Julien Dubroc vient de faire, et notamment sur l'application de la réhabilitation du case management à l'autisme, bon, dans le cas la plus particulier de l'autisme de haut niveau, mais peut-être de façon plus générale. De votre côté, quelle perspective vous voyez à cette évolution, où on voit bien d'ailleurs que les domaines s'interpénètrent via les centres ressources, mais via aussi, c'est l'objectif qui était le nôtre aujourd'hui, la mise en œuvre effective des dispositifs de soins sur le terrain, en quelque sorte.
Je réponds. Déjà, merci pour votre présentation, et puis merci d'avoir choisi un cas Asperger. Ça nous touche beaucoup dans les centres de ressources, dès que d'autres partenaires s'intéressent à la question de l'autisme. Donc, c'est vraiment important, et c'est un peu notre objectif. C'est vraiment que la question de l'autisme puisse bénéficier des dispositifs de droit courant ou de droit, enfin, qui ne sont pas encore droit commun pour vous, parce que vous restez aussi très expérimentaux et assez, ça reste encore un peu confidentiel, même pour la schizophrénie. Mais pour nous, c'est vraiment un type de dispositif très important. On a beaucoup de mal à toucher les psychiatres d'adultes concernant les Asperger ou les autistes en déficience. Et c'est vrai que de pouvoir intégrer et créer des partenariats avec les centres de réhabilitation, de remédiation, c'est aussi un moyen de sensibiliser la psychiatrie adulte. Donc autant sur les aspects diagnostiques, mais aussi sur les aspects de prise en charge. Donc l'idée qu'on a eue là, c'est de développer un partenariat, puisque la région nous a donné des crédits pour faire un plan de formation sur l'autisme, qui sont surtout à destination du médico-social, mais dont pourront bénéficier les publics hospitaliers. On va être aussi en partenariat avec tous les organismes, les OPCA, les organismes de formation qui collaborent avec vous pour proposer des formations. Donc il y aura des formations sur l'autisme via les OPCA. Mais on a aussi ce partenariat avec les deux centres de remédiation et réhabilitation, donc de Lyon et de Grenoble, pour former et sensibiliser les psychiatres d'adultes et les psychiatres de secteur à la réhabilitation et à la remédiation cognitive pour les personnes avec Asperger. Donc c'est vraiment leur proposer à la fois la sensibilisation à ce que c'est que l'Asperger et y penser quand on a un patient, mais aussi très rapidement derrière leur proposer des solutions de prise en charge. Parce que ça ne sert à rien de les intéresser du côté du diagnostic sans derrière leur proposer des types d'approches qui rejoignent beaucoup finalement dans leur façon d'aborder la place du patient et les aspects neurocognitifs et de remédiation, de réhabilitation qui rejoignent, qui sont bien en continuité avec les programmes des enfants. Parce qu'on a toujours ce problème de la passation, hein, où les programmes pour les enfants commencent à être pas mal rodés, même s'ils ne sont pas assez généralisés. Mais on a un vrai hiatus quand on passe à l'âge adulte. Donc d'aborder la question du côté de la réhabilitation et de la remédiation cognitive, ça nous permet, nous, de faire le pont entre enfance, âge adulte, sur vraiment des programmes qui se sont bien inspirés, à mon avis, hein, sur la question du handicap, qui ont les mêmes bases. Donc c'est cohérent. Et puis on a hâte de développer ce partenariat sur 2-3 ans, et on verra après ce qui se passe.
Vous aurez remarqué dans le programme que pour des raisons toutes bêtes d'agenda, on reviendra sur ces questions d'application concrète demain, notamment avec des exemples issus de Sainte-Anne. Ça met l'occasion de remercier Jean-Luc Chassagnol pour le soutien à l'ADES, mais notamment l'accueil que son établissement nous réserve à chaque fois qu'on a besoin de se réunir. Ce n'est pas si fréquent et facile que ça, donc de nouveau merci. Avez-vous des questions sur ce sujet? Non? Épuisé? Alors dans ce cas-là, je vous propose, en vous remerciant encore de la qualité et de la pertinence de vos interventions,